Comment va mon illustre patient?
Radio Campus 88.3.
Ça s'anime tout d'un coup, d'habitude y'a rien, c'est tout gris.
Musique, soleil, esprit festif et peut-être même une orgie dans la boue.
Très drôle.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs, vous êtes effectivement sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et maintenant, nous allons parler cinéma pendant une heure. Je ne suis pas sur l'équipe habituelle. Voilà, je fais un petit remplacement temporairement de Julien à la technique, donc je ne vais pas beaucoup parler, je vais surtout laisser la parole à Vincent et Arnaud. Bonsoir.
Salut Céline.
Yes, on vous entend, c'est super, c'est tout fonctionne.
Impeccable.
J'ai bien aimé le mix générique, ça le dynamise.
J'ai trouvé aussi, voilà, c'était le mix pour l'été. Hein,
ouais,
voilà.
C'est ça. C'est ça.
Alors, bonjour à vous deux.
Salut.
Et donc, ça sera une émission aussi spéciale, vu que vous voulez faire votre top 5 du premier semestre de 2023.
Bah oui, parce que du coup, la semaine, c'est ce qu'on expliquait un petit peu en off, la semaine n'a pas été très riche en films et en sorties. On n'avait pas fait beaucoup de devoirs durant la quinzaine passée. Donc voilà, on s'est dit que la période estivale arrive bientôt. Je crois que vous avez fait vous-même votre émission top 5, il me semble. Donc,
oui, la semaine dernière, c'est vrai.
Alors je t'avouerai que je n'ai pas écouté de podcast, donc je ne sais pas ce que vous avez mis en liste. Et je ne sais pas s'il y aura des corrélations, je ne sais pas s'il y aura des films qu'on va retrouver, hein, c'est possible aussi.
Peut-être, oui.
En tout cas, voilà, on s'est dit, on va suivre le mouvement et on va faire aussi notre top 5. Chose qu'on n'avait pas fait depuis un certain temps, il me semble. Parce que je crois que, on ne l'avait pas un peu repris cette habitude.
Non.
C'est une bonne habitude, je trouve, de remonter un peu le fil du temps et puis de retrouver sur le début de saison, enfin, le premier semestre, eh ben, des films qui nous ont plutôt plu, quand même.
Oui, on aime bien ça aussi de notre côté, oui.
Donc voilà, émission classique, 5, de 5 à 1, on va faire comme ça, je pense qu'on fait classiquement, on démarre avec le numéro 5 et puis on va aller vers le numéro 1, on va essayer de pas trop parler, on va essayer de proportionner le temps pour qu'il nous laisse un peu de temps à évoquer, souvent le dernier on l'expédie parce que c'est déjà fini l'émission, mais on va essayer de mesurer nos proportions et puis on va donner du temps pour chaque film qu'on va évoquer ensemble.
Parfait.
Ça vous va ?
Eh, mais oui, moi ça me va parfaitement.
Bon, alors on fait pouf pouf. Qui est-ce qui commence pour le premier ? Arnaud, à toi l'honneur. Allez, en règle générale, moi je laisse toujours démarrer mon invité.
Oui, ton invité, bien sûr, ton collègue.
De toujours. Alors du coup, voilà, on aura peut-être des ex-échos, c'est ce qu'on dit, comme là c'est assez confortable, on est que deux, on est un top 5, donc voilà, on aura peut-être des ex-échos sur certains niveaux de notre classement.
Oui. Bien, alors pour commencer en entrée, ce sera Megan de Gérard Johnston, avec Amy Donald, Alison Williams, Violette, j'arrive pas à me relire, c'est génial.
Enfin, bref, t'as des lunettes pourtant.
Oui, j'ai mes lunettes, mais c'est la main qui est pas bonne. Voilà, donc alors pourquoi celui-là ? Pas justement pour son originalité. C'était pas forcément un grand film, mais c'était une série B assez rafraîchissante, on va dire, dans le ton.
Rappelons rapidement l'histoire. C'était cette. Ce robot, enfin ce jouet.
Oui,
cadeau,
c'est-à-dire que le personnage principal est une petite fille. Qui vient de perdre ses parents et qui est confiée à sa tante, qui, elle, bosse dans l'industrie du jouet high-tech et qui, en parallèle de ses recherches et développements au sein de son entreprise, s'intéresse beaucoup à une intelligence artificielle, à qui elle finit par confier justement sa nièce parce que
elle n'a
pas beaucoup de temps et elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors, comme c'est un film plutôt d'épouvante, pardon, évidemment, ça tourne assez mal. Assez vite aussi, oui. Pardon, mais ce qui était assez intéressant, c'était la façon de traiter la dépendance, en fait, à ce type de technologie. Et puis, c'est à peu près c'est le principal. Hein, donc voilà, c'était.
Quand tu me disais, ce qui était bien, c'est que ça allait dans l'histoire un petit peu des films fantastiques ou d'horreur à base de jouets. Il y en avait déjà eu un connu qui était Chucky, la poupée de sang, dans les années 80, on va dire. Et donc, quelque part, il y a une sorte de filiation à avoir un objet censé être
inanimé
en théorie. Là, c'est plus évolué parce que c'est technologique, c'est du robot ultra high-tech. Mais on garde le principe d'intrusion dans la vie familiale, dans la vie privée, la connivence, enfin, tout ce qui s'installe en fait entre un objet qui va au-delà de ses limites et qui devient une menace presque. Enfin, c'était intéressant.
Ah oui,
c'était tous ces éléments étaient bien mis en place dans le film.
Voilà, ça prenait aussi. Comment dire, un parti pris un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans ce genre de film ces dernières années, à savoir que au lieu de tourner autour du pot pendant un certain temps, là ça y allait direct, ouais. Quitte à évidemment la crédibilité parfois en prenait un coup, mais voilà, dans son propos c'était quand même assez sympathique. Voilà.
Je suis d'accord, j'avais noté aussi, mais je l'ai pas mis dans mon classement, Megan, mais c'est vrai que on avait bien apprécié ce film quand il était sorti, effectivement, qui a fait un bon score. Je crois qu'il a plutôt bien marché aussi. Moi, mon premier cinquième film, mon cinquième film, du coup, pour ce classement, c'est un film. Alors, on en a eu beaucoup cette année, c'est les films hommage au cinéma. Alors, je pense que vous en avez peut-être un peu parlé. Il y a eu une sorte de mode, en tout cas de tendance, pour des grands réalisateurs. La plupart, c'était quand même des confirmés de longue date, à vouloir retourner un peu dans leurs premières amours et retrouver le cinéma, entre guillemets, qu'ils ont aimé, qu'ils connaissent, qu'ils veulent défendre. Et donc, il y a eu plusieurs cinéastes qui sont attaqués à cette thématique un peu commune, avec des regards très différents. Pour mon cinquième film, j'en ai choisi un sur deux, parce qu'il y a eu deux films qui ont fait un peu... L'un a fait polémique, l'autre moins. On va dire que Babylone a fait polémique, c'est clair. Le Damien Chazelle, on en a parlé ici aussi, avec Julien, entre autres. Et je ne l'ai pas choisi. J'ai plutôt choisi le plus sage des deux, le moins exalté, le moins exubérant, mais le plus carré au niveau de la photo, le plus carré au niveau du sujet, par sa maîtrise. C'est celui de Sam Mendes, Empire of Light. On en a parlé, c'est ce cinéma britannique au bord de la mer, donc un cinéma de province, on va dire, dans les années fin 70, début 80, avec ce portrait de femme qui incarne la chef de l'équipe de management, on veut dire, qui gère le cinéma, qui gère les employés, on va dire, le projectionniste, les gens du pop-corn, enfin, le petit univers d'un cinéma. De quartier, de province, on va dire, mais un beau cinéma. L'objet, faut voir le bâtiment, c'est extrêmement architecturalement très chouette, ça fait vraiment la grande force du film. Et puis cette petite histoire dans l'histoire, c'est finalement un film sur l'objet cinéma, le lieu cinéma, puis aussi le cinéma comme pansement, enfin les films comme pansement au drame de la vie, au coup de la vie, incarné donc par Olivia Colman, qui porte vraiment le film, mais il y a Colin Firth aussi qui est dans le casting. C'est un film qui est un grand film d'acteur, on va dire, avec une très belle photographie. Moi, Sam Mendes, c'est souvent corrélé à une magnifique image, et ça n'a pas dénoté sur ce film-là. C'est une romance, c'est aussi un film militant, ça défend évidemment les droits de racisme à l'époque, incarné par les skinheads qui montent en fait en Angleterre. Donc tout ça est évoqué autour d'un lieu, et c'est plutôt bien fait en fait. Moi, j'ai trouvé que le film était très bien maîtrisé, très bien balancé, et c'était peut-être une certaine longueur, peut-être, je me souviens qu'on avait un petit peu...
Il est très contemplatif. Parfois frise effectivement un peu avec l'ennui, mais malgré tout, effectivement, ça, la beauté des images fait qu'on reste quand même pas mal suspendu
Donc voilà, c'était
à son ambiance, à son atmosphère.
C'était mon choix, mon cinquième film, c'est Empire of Light de Sam Mendes.
Oui, bien. Effectivement, nous aussi, il y a Babylone qui est rentré dans certains top 5. Oui. Bon, moi c'était hors de question, mais bon, voilà. Eh bien, votre numéro 4.
Ouais. Ça marche, je démarre ce coup-ci.
Ouais, oui.
C'est un film qui a dû certainement passer un peu discrètement, mais on a bien apprécié tous les deux, en tout cas quand on l'a vu, c'est La Tour de Guillaume Niclou, film français. Petit budget, film de genre, série B, ultra original sur le concept malgré tout, avec des choses très simples, puisque l'histoire, c'est une tour de banlieue qui se retrouve totalement isolée par un phénomène fantastique inexpliqué, comme dans tout bon film, on va dire, de SF très minimaliste, où en gros, la nuit arrive en fait, dans cette cité et la tour se retrouve dans la nuit. Et au fur et à mesure, les personnages se rendent compte que quand ils ouvrent leurs fenêtres, quand ils regardent à l'extérieur, il n'y a plus rien à voir. C'est qu'un noir, en fait. Il n'y a plus du tout de lumière, il n'y a plus les lumières d'en face, il n'y a plus rien. Ils sont perdus totalement. La tour se retrouve isolée dans une obscurité qui est dangereuse, puisqu'en fait, lorsqu'on y passe la main ou n'importe quoi, on est absorbé par une matière en fait, qui te coupe comme un couperet, en fait. Donc, chaque fois qu'on passe la main ou n'importe quoi, on meurt, en fait. En gros, c'est ça.
Oui, c'est ça. Les gens disparaissent. Mais alors, justement, moi aussi, je l'ai mis en quatrième.
Ah, bah tiens, ça tombe bien. On va pouvoir en parler de manière conjointe.
Mais. Alors, pareil, pour des questions d'originalité, de mise en scène, comme tu disais, ou tu ne l'as pas dit, je ne sais plus, il n'y a pas un gros budget, a priori, ouais. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y a un gros budget, ça ressemble pas mal à un premier film,
oui.
Alors que ce n'est pas du tout
alors
le cas.
Alors que le gars est expérimenté.
On a vraiment l'impression, en le voyant, de voir quelqu'un qui essaye, qui trouve des solutions.
Qui donne tout. Hein.
Enfin, je trouve, hein, alors qu'il semble ne pas avoir les moyens. Mmh. Et donc, de ce fait, il y a une certaine inventivité. Des éléments de récit qui sont quand même plutôt à l'os. Mmh. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une tentative de ce genre, une proposition comme celle-là. Donc, c'était...
Vous ne l'aviez pas forcément...
Du tout.
Oui, il n'est pas passé longtemps. Hein. Il est resté une semaine ou deux, à peine, je crois, une semaine peut-être.
Ouais,
et en fait, ce qui était... On avait vu la bande-annonce, c'est pour ça qu'on y était allé, parce que je crois qu'on avait quand même vu, et on avait dit... D'abord, Guillaume Niclou, moi, je connaissais le réalisateur, enfin, j'avais vu déjà plusieurs de ses films, et je me suis dit, mais c'est bizarre, il se lance sur un projet comme ça, si... on avait l'impression d'un vrai premier film, pour le coup, alors qu'encore une fois, il a 15-20 ans de métier.
Dans ce que ça a de qualitatif. Hein,
oui. C'est-à-dire que c'est presque un... Enfin, on dit des fois des courts-métrages qui sont en format long. Enfin, mais c'est pas non plus tout à fait ça, parce que c'est pas il y a ce qu'il faut pour raconter un long, je pense. Même
là,
s'il y a...
là, pour le coup, son expérience lui permet de tenir la longueur, sans doute.
Ouais. Mais ce qui était fort, c'est vraiment sur un truc très, très, très simple, très minimaliste. Il va au bout de chaque principe, chaque idée suivie. En fait, chaque fil suivi va jusqu'au bout, parfois même à l'extrême. C'était moins de 12. Ça aurait pu être parfois moins de 16. On s'est posé la question parce qu'il y a vraiment une certaine abrupteté. Parce qu'en fait, le principe, c'est que les gens de la tour, qui des fois ne s'apprécient pas au naturel, c'est un peu la promiscuité classique de tout quartier, en fait. Bah là, se retrouvent encore plus les uns sur les autres avec une menace permanente et ils sont fermés dans une prison, en fait. Et du coup, en plus, il y a la notion de temporalité qui est extraordinaire.
C'est ce que j'allais dire.
C'est un film d'une heure trente. Mais au début, on se dit, ça, chaque heure passe, c'est compté par heure, puis jour éventuellement, enfin nuit, parce qu'on ne sait même pas si c'est jour et nuit. Mais après, c'est des années, voire des décennies. Quoi. Le film raconte une intrigue qui dure plus de 10 ans, je crois, enfin 15 ans. C'est
plus
génial.
Plus que ça encore.
Ouais, plus que ça encore. Ça va chercher. Enfin, c'est super original, ça, pour un plot de fin, enfin la partie finale du film. Ça donne sur des ouvertures, enfin, même si c'est un lieu très fermé, ça ouvre vers des possibilités qui font presque un frisson, quoi. Et avec, comme ça, une intrigue. Qui est très inventive, qui relance tout le temps, et une photographie qui est aussi maîtrisée là aussi,
oui.
Avec des effets de lumière très très mordorés. Enfin, c'est une belle photographie.
Il fait pas du joli,
non,
dans sa photo, mais ça sert bien le propos. Avec une actrice aussi que je ne connaissais pas, Angèle Mac. Qui tient quasiment le film sur ses épaules.
Pour tant de raisons, on vous le conseille, hein, quand il sortira en support alternatif ou autre.
C'est très intriguant.
Essayer de regarder La Tour, c'était une originalité. Enfin, voilà, c'était un des films qu'il fallait s'essayer à voir cette année. On a été agréablement surpris.
Il a réalisé quoi d'autre comme film ?
Alors, moi, j'ai pas suivi tout ce qu'il a fait, parce qu'il savait encore, ça fait 25 ans qu'il fait des films, 30 ans presque. Mais moi, j'avais vu un film qui m'avait marqué de lui, c'était Cette femme-là, avec Jeanne Balasco, qui jouait une policière, un peu vraiment atypique, hein, alcoolique, alcoolodépendante, dépressive. Enfin, elle avait tout le tableau, et chariée par ses collègues, parce qu'évidemment, mais très fine, hein, très, très maligne, avec une capacité. Très, très accroché sur une enquête, quoi. Et jusqu'à la manger, en fait, comme beaucoup de flics totalement obsédés. Et déjà à l'époque, Niclou avait fait part d'une grande maîtrise du récit de la photo. Et je m'étais dit, je vais suivre quand même ce qu'il fera. Même si en fait, il a fait un triptyque sur cette histoire de cette femme-là. Il y a eu un film avant et un film après que j'ai pas vu. C'est une trilogie, en fait, mais avec des personnages récurrents, un peu comme dans les romans. Puis il a fait d'autres films que j'ai, voilà, que j'ai par-ci par-là survolé. Mais là, il revenait un peu de manière inattendue avec ce court. Enfin, c'est pas un court film, c'est un film d'une heure trente, mais qui est vraiment très costaud, avec très peu de moyens, encore une fois, du décor.
C'est une adaptation ou c'est un scénario original ?
Je me demande si c'est pas un scénario original, moi.
Je saurais dire, là.
En tout cas, c'est. Ouais, on regardera. On est à l'époque, on n'a pas forcément. Mais j'ai pas. Il me semble que c'est vraiment un script.
Original,
ouais, je pense, oui. Après, ça, voilà. C'est proche de. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Carpenter, on peut éventuellement penser à Saut sur le Precinct 13, enfin en anglais, mais Saut. Ça s'appelait en français. Mmh. C'est un de ses premiers films à Carpenter, où en gros, c'est dans un commissariat de police qui est envahi par des assaillants, mais dont on ne sait même pas qui c'est, en fait. C'est une abstraction. Et il y a un petit groupe de personnes qui se retrouvent au centre du bâtiment à essayer de se défendre comme ils peuvent. Et ils se recréent des contacts, ils se recréent des antagonismes. C'est le même concept dans la tour, à peu de choses près. Ouais.
D'accord.
Donc ça pose plus loin la machine, par contre.
Oui,
ça donne très envie. C'est dommage, il est resté qu'une semaine,
ouais,
c'est ça ?
Et peu. Enfin,
il a vraiment pas. Il a été mal distribué.
Mal distribué, et puis des séances du soir, mais genre 22h, pas avant. Voire, donc c'était un peu complexe d'aller le voir. Mais voilà, on s'est dit quand même qu'il fallait y aller parce qu'on y croyait, et puis on a eu raison là-dessus. On a eu le nez. C'était une vraie bonne curiosité.
Bah oui, puisque c'est votre numéro 4.
Notre numéro 4, tout à fait. La tour est commune en plus, c'est marrant, on a mis en même place, même endroit.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de poursuivre.
Absolument.
Moi, dans ce premier semestre, il y a un film que j'ai adoré dans les Marvel. Je crois que c'est mon préféré aujourd'hui. Mm-hmm. C'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 3.
Il va revenir, madame. À mon avis, on va en parler aussi.
Que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Ouais. Et du coup, je vous propose d'écouter quelques morceaux de la bande originale du film qui a été composée par John Murphy. Et donc, on écoute un premier morceau et puis on se retrouve juste après.
Thank you.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et c'est donc l'émission Alors, on se fait un film. Et donc, vous avez peut-être reconnu la bande originale du film Les Gardiens de la Galaxie, le dernier épisode, qui était juste incroyable. Et donc, nous retrouvons le top 5 et donc le numéro 3.
À toi l'honneur.
Le numéro 3, The Well de Darren Aronofsky.
Oui, oui, oui. Voilà. Comme il m'arrive des fois sur mon agenda, je note pas forcément tous les films que j'ai vus. Ça m'arrive ça.
J'ai vu The Well, oui.
Et du coup, je l'ai vu, bien sûr, on l'avait ensemble, mais je l'ai pas mis dans mon classement parce que je l'ai zappé. En fait, en regardant juste pour me remémorer un truc.
Tu regrettes.
Oui, non, je peux mettre en ex-aequo si je veux, éventuellement en troisième position. Donc, vas-y, parle-en donc.
Donc, avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Cho et quelques autres, citer tout le monde. Donc Brendan Fraser qui a été oscarisé pour ce rôle.
C'est en regardant la liste des Oscars que je me suis dit mais pour ça il y avait eu The Well, c'était
l'histoire on a un prof ou ancien prof donc en obésité morbide qui est cloîtré chez lui qui donne des cours par visio sans se montrer lui mais enfin bon il est en distanciel comme on disait à une époque et son état de santé est franchement pas terrible donc il essaye de raccrocher les wagons avec sa fille qui le déteste royalement, oui, enfin une adolescente de 16-17 ans, enfin je sais plus exactement l'âge. Et donc on voit un petit peu leur relation se détendre un peu, mais encore là je suis un peu optimiste, mais quand même il y a quand même un rapprochement. Et puis donc des références à la littérature, bien sûr, Moby Dick, la baleine, et son état à lui, enfin, ce qui n'est pas tout à fait, après, il n'y a pas tellement d'autres liens entre les deux, mais le film était une bonne surprise.
Adaptation d'une pièce de théâtre.
Une adaptation de pièce de théâtre, alors oui, effectivement, j'allais y venir, moi j'avoue que pendant tout le long du film, je ne l'ai pas trop senti, justement. Il n'y a qu'après, en sachant, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça explique un peu le fait qu'on soit principalement dans un huis clos, enfin dans un seul lieu, unité de lieu. Mais justement, ce que j'ai beaucoup apprécié en dehors du récit lui-même, c'est que Darren Aronofsky a su jouer de cette contrainte où il a un peu transcendé le fait d'être comme ça dans l'univers d'une pièce de théâtre. Voilà, et les personnages secondaires étaient quand même relativement sympathiques aussi, enfin croustillants.
Le casting est extrêmement bien joué, enfin je pense que c'est mérité. Je pense pour Brendan Fraser, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Il est pas mal maquillé, bidule, c'est pas le fait. Enfin, il y a eu quelques avis, on va dire un peu grinçants sur l'interprétation. Moi, honnêtement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. Vraiment, il y a un travail de fait qui va au-delà du simple maquillage. Je pense qu'il s'est vraiment investi pour le rôle. Puis c'était un peu le rôle de son retour un peu en lumière.
Ça faisait longtemps. Un long passage à vide. On l'avait pas vu.
Ouais. Et ça se sent. Enfin, vraiment, c'est assez honnête, je pense, sur le concept. Pour ça, en tout cas, après l'adaptation de pièces, c'est vrai que moi, je l'ai plus perçu, parce que je le savais un peu en avant, et puis j'y ai pensé pendant le déroulement du film. Je me disais, mais oui, en plus, c'est un format carré, enfin, en image, en projection, ce qui rajoute encore à l'enfermement. Mais ça, c'est pas forcément des agréable, enfin, ou du moins, ça, c'est justement volontairement très désagréable pour qu'on sente vraiment l'oppression d'être dans un corps massif et d'être aussi dans une tête fermée, comme ça, enfermée dans sa peine, etc. Parce que c'est un film très très douloureux, c'est très, très pénible dans la souffrance, quand même. C'est aussi l'univers d'Aronofsky, il faut s'y faire en général. Mais c'est pour ça d'ailleurs que peut-être aussi de manière non ouverte, je l'ai pas mis. C'est aussi pour ça. Mais sinon, je l'aurais mis effectivement peut-être en troisième position. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu en dis. On n'est pas sorti. Moi, je suis pas sorti du tout déçu. Hein. J'ai trouvé que c'était quand même assez fort, assez puissant comme film. Mais voilà, je ne l'ai pas mis.
Mais effectivement, c'est mérité hein, cet Oscar pour Brendan Fraser, parce que c'est vrai qu'il a joué, c'est impressionnant toute cette palette qu'il a pu exprimer. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'étais quand même très, très, très mal à l'aise sur les... sur la mise en scène, sur le choix de point de vue qui a été choisi, ou en tant que spectatrice, j'étais pas bien en fait de voir cette personne dans cet état, et comme si elle l'avait cherché, alors que moi je l'ai pris comme ça, comme si alors que c'est l'obésité, c'est une maladie, c'est d'autres problèmes,
il y a le mot coupable qui est dit très souvent. Moi je trouve I'm sorry, I'm guilty, enfin un peu ces deux termes là qui sont très souvent utilisés. Je suis pas d'accord.
Je trouve que c'est dommage qu'il ait pris ce point de vue-là.
Sans être d'accord effectivement avec ce qu'il peut dire, je trouve que justement on comprend assez bien le cheminement psychologique qui l'a amené à se faire du mal finalement. C'est plutôt comme ça que je le vois.
Après, ça arrange bien Aronofsky après. Je pense que c'est ça qui va plutôt te faire tiquer. Moi, j'avais souffert sur, par exemple, je parle de mes souffrances, hein, mais j'avais souffert sur la projection de Mince, le film sur la danse là, avec Portman. Parce que c'était.
Black Swan.
Black Swan. Oui. Parce que Aronofsky, il s'est focalisé sur les trucs qui font mal. Il est dur avec ça depuis Requiem for a Dream, si on prend. Des films souvent difficiles. Et moi, pour Black Swan, alors que pourtant, pour repenser que c'est un petit peu l'intrigue qui se passe dans le dessin animé, qu'on aime beaucoup aussi, c'est pas Mamoru Oshii, ou l'autre, là, je sais plus. Tu sais, j'ai plus en tête, mais c'est une version filmée, mais du dessin animé qui est. Sur la double personnalité, etc.
Ah, Perfect Blue,
voilà. Il y a des liens.
Il
y a quelques citations.
Darren Aronofsky ne cache pas l'admiration qu'il a eue pour ce film d'animation.
Mais là, je digresse.
Satoshi Kon,
je confonds toujours les deux.
D'ailleurs, il avait repris peut'être pas dans celui-là, mais il avait repris quelques plans, entre autres le plan zénital
de la baignoire.
De la baignoire,
tout à fait. Ouais.
À tel point que après, ça lui a été reproché comme étant du plagiat. Je peux pas dire que ce soit du plagiat non plus. Mais donc oui.
Black Swan, Perfect Blue, il y a pas mal de connexions en fait. Il pourrait y avoir des choses. Mais enfin, pour Black Swan, moi j'avais beaucoup souffert parce qu'il a appuyé sur des choses qui me font baisser les yeux. Je ne veux pas citer ça à l'écran, mais ça se fixe un peu sur la mutilation du corps et tout ce qui est mutilation ou automutilation. Moi j'ai du mal souvent. C'est un truc qui est assez rédhibitoire au cinéma pour moi, ou en tout cas, je sais que c'est une étape un peu plus dure à franchir en projection. Voilà, et donc sur Black Swan, j'avais peiné, j'avais quand même vu jusqu'au bout, mais il y a des moments où j'étais pas très très bien. Mais je peux comprendre le malaise un peu. Je pense qu'il le cherche un peu, il aime bien.
Malaise, oui, il y a forcément. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il dise. Enfin, je crois pas qu'il dise que il l'a mérité. Par contre, que le personnage lui le pense,
oui, ça c'est sûr.
C'est autre chose.
Oui, effectivement. Mais moi, je me pose plutôt la question de connaître sa position sur l'obésité, en fait.
Ouais.
Je me sentais j'avais même l'impression qu'il y avait de la grossophobie derrière, en fait. J'étais mal à l'aise à ce niveau-là. Je comprenais pas toujours comment il nous mettait face à cette personne. C'était le point de vue du réalisateur. Enfin, la caméra qui était posée, c'était son point de vue et c'était un regard frontal sur son état.
Bien sûr.
Et moi, je crois qu'il n'y avait pas assez de distance sur l'obésité.
Une question que je me suis posée souvent, moi, c'est en pièce, qu'est-ce que ça donnait puisque c'est une pièce de théâtre, est-ce que c'était interprété par quelqu'un de vraiment obèse? Parce que moi, je me suis posé la question, même au cinéma, on peut reprocher à un acteur de faker, d'avoir c'est ce qui se passe des fois.
Et moi, je me suis posé un peu. C'est le boulot d'un acteur.
Mais c'est le boulot d'un acteur, je suis d'accord aussi. C'est pour ça, là-dessus. Moi, je pense pas. Enfin, je pense pas que l'angle d'Aronofsky c'était de taper fort sur l'obésité morbide en plus qu'une obésité dans l'obésité, qui est le summum un peu du statut vraiment médical clinique de la chose. Et j'ai pas pensé ça. Je pense. Par contre, on souffre aussi. Il y a une vraie projection de la souffrance, ça c'est sûr. Et ça, Aronofsky, c'est un peu le tort que je lui reproche, c'est de nous appuyer, de nous impliquer là où ça fait mal. Effectivement, ça c'est son cinéma à lui. Voilà.
Bien. Mais allez, il faut le voir si vous l'avez pas vu, effectivement.
Quand même,
c'est intéressant,
c'est une
le
expérience,
voir.
Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai pas dit mon top 3.
Voilà, c'est ça. Oui,
mais t'avais choisi la musique pour moi, parce que c'est les Gardiens de la Galaxie 3 pour la troisième position. Moi, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas souvent que je mets des Marvel Enfin, des fois, il m'arrivait quand même. Si, entre autres pour Endgame, j'avoue que celui-là, il se posait là, quand même, la dramaturgie aidant. Parce que souvent, un des reproches que moi je fais dans l'univers, la nébuleuse Marvel, c'est des films souvent qui se copient un peu, qui se formatent un peu, où on a un peu toujours les mêmes principes, les mêmes ficelles, parfois grosses, etc. Je sais que beaucoup vont me turlupiner là-dessus, vont me chercher, mais au moins quand c'est bien fait parfois, et c'est très bien fait, il ne faut pas se bouder son plaisir. Et pour les Gardiens de la Galaxie 3, qui est non seulement le meilleur des trois, en tout cas celui dont on va se souvenir, parce que moi ce que je disais souvent, ce qu'on s'est dit un peu en analyse à l'émission, moi le premier, voire le deux, alors là je ne m'en souviens plus, je ne peux pas te raconter l'histoire. Les interactions entre les personnages, et ça oui, parce que c'est très bien écrit, c'est très bien joué, c'est avant tout les dialogues, et c'est surtout, à mon avis, surtout pour l'univers, la famille des Gardiens de la Galaxie, c'est souvent les interactions entre les personnages qui fonctionnent super bien, là où ils sont, telle planète, etc. On oublie un peu vite ça, un peu, je trouve. Après, ils avaient une grosse place dans le Endgame, justement. Ils étaient imposants, ils faisaient une grosse partie du film. Donc, on s'en souvient aussi pour ça, que ce soit Raccoon, etc., toute la bande. Mais alors là, la force de ce film-là, c'est que le scénario, il est extraordinaire, déjà. C'est un vrai scénario, ultra fort, ultra inventif, rarement vu, avec là aussi une dramaturgie, une introspection sur un seul personnage, culotté, qui parle peu, dont on sait peu d'Isère, mais dont on connaît un peu par bribes, qu'il en a chié, peu d'autres mots. Et donc là, on le voit, on le met en image, avec une crudité, là aussi, franche du collier, hein, avec des séquences qui sont extrêmes. Et comme disait Julien, c'est un roller coaster de sensations et d'émotions, parce qu'on passe du rire aux larmes. C'est ce qu'il a
constamment.
Subi constamment, et c'est ce que tu as dû visiblement un peu connaître
oui,
aussi.
Oui, oui, oui.
Ça ne ménage pas l'optinaire. Et en même temps, on se marre, mais comme jamais. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'on a un repas complet, il n'y a pas à dire, en tout cas en termes d'émotion, avec une belle intrigue, des beaux personnages, des discussions, des interactions qui parfois se passent de mots. Enfin, je me souviens encore d'une personne qu'on aime beaucoup, nous Mantis, qui montre juste du doigt son complice de toujours, à Calem Charrier, et c'est ce plan, il est à pleurer de rire. Et donc voilà, pour ces choses-là, moi j'ai mis Les Gardiens de la Galaxie 3 en troisième position. Voilà.
C'était du plaisir
très coupable.
C'est mérité, oui, effectivement, je suis d'accord. Eh bien, du coup, pour prolonger le plaisir, on va écouter un autre morceau de la bande originale de ce film, Les Gardiens de la Galaxie 3. Et aussi, pour préciser que c'est, les trois épisodes ont été réalisés par le même
James Gunn,
effectivement. Et sur la musique, eh bien, pour ce numéro 3, il a fait appel donc à John Murphy, alors qu'il avait travaillé avec Tyler Bates sur les deux précédents épisodes. En tout cas, je trouve qu'il a fait un bon choix avec John Murphy, parce que c'est une musique aussi qui est vraiment bien travaillée. Et donc, on écoute un deuxième morceau et on se retrouve tout de suite après.
Ça marche.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans pour l'émission Alors, on se fait un film. Et on continue sur le top 5 avec cette fois-ci votre numéro 2.
Oui, alors le numéro 2, les numéros 2.
Ah, à des ex aequo.
C'est là qu'il y a des ex aequo. Ah. Et encore, il y en a un, je l'aurais bien laissé de côté. Mais bon, donc, alors d'abord pour commencer, The Fablemans de Spielberg, toujours dans justement la série des films hommage au cinéma, enfin déclaration d'amour au cinéma. Donc film hautement autobiographique hein, de Steven Spielberg avec Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel Labelle, Jude Hirsch, Seth Rogen, etc., etc. Encore une fois, je ne peux pas faire tout le casting. Mais voilà, c'était un Spielberg un peu spécial parce que on n'est pas dans la grosse aventure ou le film historique. Enfin, bien qu'un peu, là, justement, pour le coup, quand même. Qu'est-ce que je peux en dire? Là, j'ai un peu de mal quand même.
Je l'ai mis en deuxième, si tu veux.
Écoute, voilà, allons-y.
Ça peut t'aider.
De concert. Moi, surtout, en fait, c'est Michelle Williams, son interprétation, son personnage. J'avoue que j'ai été scotché. Toute l'histoire qui va avec, bien sûr, y participe, bien que parfois il y a quand même des choses que je trouve un peu trop poussées dans les curseurs, entre autres la scène où il fait son Zapruder, qui regarde sa bande de Super 8. J'ai trouvé le moment un peu trop surligné par la mise en scène.
C'est peut-être le seul moment qui est un peu comme ça. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Ouais.
Celui-là, oui, d'accord.
Mais voilà, j'ai été quand même assez conquis par cette expérience.
Moi, effectivement, c'est pas que c'est inclassable, parce que bon, il a une filmo, Spielberg, qui n'est plus vraiment à démontrer. Il est même maintenant, il a eu son temps de honor. Enfin, il y a une émission aux États-Unis ils sont tous dans une pièce, tous ses potes sont là, etc., dans les tables, etc. Puis il trinque, et puis c'est la consécration, en fait, hein, du grand réalisateur. Donc il a déjà eu droit, donc maintenant, il est vers la fin. Bon, il a encore du temps quand même, je suis méchant. Et en fait, là, c'est un film. Évidemment, moi, j'aime pas en général les biopics. Justement, ce qui est bien, c'est que c'en est pas un. C'est un film, effectivement, fortement autobiographique, mais qu'il fait comme un vrai film à part entière. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'effectivement, c'est introspectif, fatalement. Il y a énormément beaucoup de choses qu'il prend de lui-même, mais sans le montrer aussi fortement que ça pourrait l'être. C'est-à-dire, on aurait pu se dire, il va s'autociter souvent, il va mettre des petits clins d'œil partout, il faut plaire aux fans, etc. Certes, ça y est par moment, on va pas se dire c'est pas vraiment un vrai Spielberg où il va pouvoir cacher ça et là des choses. Il y en a des petites pépites, il faut les trouver. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film sur la passion, en fait, naissante. Et ça, c'était plutôt bien écrit, c'est-à-dire bien décrit aussi, puisque au début, on a un enfant de 7-8 ans, c'est donc le futur réalisateur, ou en tout cas un futur réalisateur, qui que ce soit, qui va au cinéma avec ses parents dans les années 50, 40 peut-être même, je dirais plutôt 50, et qui assiste à un film, un classique pour le coup, mais il y a une séquence d'accident, enfin, on en a parlé quand on a analysé le film, et puis l'accident le marque, le terrifie autant que ça le marque, ça l'imprime dans le cerveau, au point d'imiter, de revivre, de refabriquer la séquence avec des jouets. Et la complicité de sa maman qui lui donne une caméra familiale pour tourner. Et il s'aperçoit qu'il ne fait pas qu'un seul plan fixe. Simplement, il coupe, il raconte comme il l'a vu sur l'écran. Donc il y a une vraie absorption, une vraie buvard en fait, de ce qu'il a vu en salle. Et il le restitue pratiquement de manière innée, ce qui est rare quand même chez un enfant. Donc c'est un peu un cas, on va dire, de génie presque cinématographique en naissant. Et puis cette passion dévore, bouffe complètement. Et ça, c'est très bien montré, que ce soit la passion pour la musique. Et j'y reviendrai dans un prochain film, mais aussi pour le cinéma, bien évidemment, ça vous mange quand vous aimez faire des films. Je pense que ça, c'est bien communiqué dans The Fablemans. Ça va mettre en danger hein, la vie familiale, la stabilité familiale. Bon, en plus, sa mère, elle est elle-même déjà assez instable. C'est une artiste, une mélomane, pianiste, et qui est aussi habitée tellement par son art que ça la met en trouble avec son mari, qui lui est un mec plutôt cartésien, c'est un technicien, enfin, etc. Et très bien joué par Paul Dano. Vraiment, le casting, encore une fois, entre Michelle Williams et Paul Dano, c'est extraordinaire, ça fonctionne super bien. Et puis bah, après, on déroule l'histoire. Alors, ça remonte le temps jusqu'aux années 70, ça s'arrêtera là, juste avant qu'on imagine qu'il va tourner, ou, pas Jaws, mais enfin, qu'il travaille sur Duel, effectivement, et qu'il arrive à travailler pour CBS, enfin, ou en tout cas une télévision, parce qu'il va démarrer par la télé, Spielberg. Il va réaliser des Columbo, entre autres. Oui. Et donc, on va jusque-là. La proportion, le problème du film, je pense, c'est ça, c'est dans sa proportion. Il y a des moments qui sont vraiment très bons et il n'y en a pas assez en proportion. Il y a des moments moins bien, plus dilués, où là c'est moins passionnant, et c'est la deuxième partie du film plutôt, qui traîne un peu en longueur. C'est moi ça que je reprocherais peut-être sur un film de 2h15 ou 20, je crois, il est assez long quand même. C'est cette disproportion parfois de choses, de focalisation sur la thématique. Mais faut pas bouder quand même, là aussi j'ai vraiment trouvé mon compte personnellement. Après, voilà, je sais pas si c'est forcément communicatif, mais moi j'ai beaucoup aimé The Fabelman. Je l'ai trouvé émouvant, je trouvais que ça transmettait bien le fait d'avoir une passion pour un art, pour un médium, quel qu'il soit. Et aussi les dangers que ça peut amener parfois, pour les autres et pour soi. Ouais.
Oui.
Ah, effectivement, c'est... Oui, pardon.
Non, vas-y.
Non, enfin, c'est un bijou cinématographique, effectivement. C'est en termes d'esthétisme, de mise en scène, c'est parfait. Enfin, c'est du Spielberg, donc
il va y avoir un mais.
Une valeur sûre. Comment ça? Mais je
t'es pas rentré dans ce truc là.
Moi, le souci, oui. c'est un réalisateur extrêmement doué qui réalise dont le sujet du film, le sujet du film, c'est un prodige du cinéma, et qui est le prodige du cinéma lui-même. Oui. Et du coup, je trouve que c'est
C'est un peu une auto. Tu penses que c'est un peu l'autosatisfaction?
Moi, je l'ai pris un peu
fait homme.
Et j'avoue que j'avais un peu un ras-le-bol d'Hollywood entre Babylone, où j'ai trouvé que c'était trop du too much partout. Oui. Mm-hmm. Et même s'il y a aussi des aspects positifs aussi sur certains moments. Mais du coup, là encore, avec Hollywood, le sacre de Hollywood, John Ford, les grands réalisateurs.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette séquence de fin.
David Lynch.
Oui, je parle David Lynch.
Le caméo en lui-même était déjà assez étonnant quand même.
Effectivement. Et je sais pas, pour moi, c'était trop. Ouais. Même si j'admets que c'est un film qui est réalisé parfaitement, c'est un bel hommage à ses parents, il est parfait, le film. Mais c'est juste le sujet. Je suis un peu embêtée qu'il s'auto-congratule.
Je comprends. Ouais. Mais il s'auto-congratule, en même temps, il y a des fêlures quand même. Je pense que c'est pour ça. Même si c'est effectivement c'est peut-être plus le côté, pas la gloire, c'est pas le terme, enfin vraiment le côté. Communication de ce qui est positif dans... Mais comme je disais, moi, je trouve qu'il y a vraiment deux revers. Il y a quand même le côté, c'est sur la pièce, c'est comme ça. Je trouve qu'il y a à la fois... On est porté par cette pulsion, de dire, de passion. Et en même temps, les risques sont bien montrés. Enfin, on voit bien le déchirement, on voit bien les... Mais comme tu dis, peut-être aussi, effectivement, que c'est peut-être pas tout le temps comme ça que ça se passe, après tout. Et puis, le système Hollywood, c'est encore un peu autre chose, parce que
effectivement, c'est encore autre chose, on en parle encore. Ouais. Voilà, ça a été un grand cinéma, j'en ai un petit peu marre d'Hollywood. Alors, ça va être le numéro 1, le dernier?
Pas tout à fait.
Mais t'avais un ex-aequo.
Ah, mais t'avais un ex-aequo, c'est vrai.
Oui, j'avais un ex-aequo, mais comme je disais, que j'aurais...
Plutôt ôté, tu l'aurais...
j'ai encore du mal.
On a du temps.
Je l'aurais volontiers mis de côté, mais en même temps, c'était pas possible. Par contre, le fait qu'il soit ex-aequo à la deuxième place, là, je me dis.
Tu l'as mis trop haut, tu penses?
Oui, je pense que je l'ai mis peut-être un peu trop haut. Bon, je vous le donne en mille. Avatar.
Ah oui, mais il est sorti aussi cette année. Même lui, je l'ai pas noté, mais c'est quand même la honte, non?
La voix de l'eau.
Non, mais ça déconne. Pourquoi je l'ai pas marqué?
Alors, j'ai un peu je l'ai mis parce que la mise en scène, parce que la 3D est vraiment très bien travaillée, très immersif. C'est pas la 3D
après
que
14 ans d'attente.
Ouais. Mais ça faisait 14 ans, j'ai pas vu le premier.
Oui,
et
vrai.
Du coup, il y avait des choses. Je vais y venir. Je disais la 3D qui est pas celle conventionnelle que tu oublies après avoir vu les premiers plans ou les premières séquences d'un film. Celle-là, tu la vis pendant tout le film. Et ça, c'est quand même suffisamment important pour le noter. Après, le pourquoi, j'ai un peu un repentir vis-à-vis de son classement, c'est que là, pour le coup, l'inventivité, je trouve, y est pas tellement. Pour moi, il y a trop de trucs. Des facilités scénaristiques, ou faut du moins du déjà-vu dans ces films.
Tu parlais, il s'auto-cite pour le coup.
Tu parlais de citations, etc. Bon, là, il en fait un paquet, surtout vers la fin du film.
Et la fierté.
Enfin, non, d'ailleurs, pendant tout le long du film. Oui. Il cite quasiment tous ses films.
Autres films, ouais. Et d'autres.
Il le fait pas mal, d'ailleurs, mais il y a quand même un côté fanservice qui est. Bon, voilà. Mais malgré tout, effectivement, bon, voilà, c'est bien mis en scène. Voilà, je vous renverrai éventuellement à une chaîne YouTube.
Arnaud et ses chaînes YouTube. Alors, il est devenu accro aux chaînes YouTube d'analyse de films. Ben, et il y en a.
Oui, il y en a.
Des talentueuses.
Il y en a des biens.
Il y en a des très bien. Alors, celle-là, c'est pas une de celles que je préfère, mais son analyse de ce qui va pas dans Avatar
et bien,
est assez bien longue, structurée. Bien structurée, etc. Alors, c'est la chaîne de Durandal. Ouais. Le truc doit durer un peu plus d'une heure, hein, son analyse.
Sur tout ce qui ne va pas dans Avatar.
Oui, c'est-à-dire que
c'est ton numéro 2.
voilà, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, mais comme je disais, je pouvais pas non plus le laisser sur le bord de la route. Alors là, c'est un peu bancal, mais voilà, il y est quand même. Ceci dit, à côté de ça, il y a peut-être aussi l'émission, l'autre chaîne YouTube oui. de Monsieur Bobine, qui a fait aussi un beau travail sur le deuxième Avatar. Donc voilà, je vous renvoie. Je trouve qu'il y en a quelques-uns qui causent assez bien, qui écrivent bien leurs textes avant, qui font de l'analyse véritablement. Donc, quand il y a de la qualité,
oui.
Voilà, mmh. on peut quand même le signaler.
Tout à fait.
Voilà, voilà.
Bah c'est bien, disons. Je n'avais pas parlé d'Avatar, mais moi, j'avoue, j'avais un peu oublié. Enfin, j'ai pas oublié qu'il était sorti, finalement, parce que c'est vrai que... Mais je ne l'ai pas noté. Et puis, non, je ne l'aurais pas mis de toute façon, parce que, même si j'admire, là, effectivement, le brio ultra, ultra technologique, qu'il est le seul vraiment à pousser à ses retranchements à ce point, en termes de scénario, pour le coup, là, c'est plutôt pas oui. super.
Il y a des faiblesses.
Ouais, voilà. Mais déjà, le premier était un peu comme ça. C'était un peu du. Mais comme dire, Julien le disait justement, c'est pas forcément pour un public de pointe, c'est pour tout le monde. Il faut que ce soit une histoire qui soit forcément absorbable, compréhensible très facilement par
grand public, ouais.
Très grand public. Donc, il faut accepter à la rigueur cette dimension-là. Mais après, voilà. Mais cependant, voilà, on passe pas un mauvais moment. Et j'avoue que je ne me suis pas ennuyé. Et
sur la durée, ouais. les 3 heures, hein, quasiment.
3 heures oui. quasiment, 250.
Ouais. Je ne me suis pas ennuyé. Ouais,
c'est vrai.
Effectivement,
il y a des relances, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est peut-être un. Voilà. Mais après, je trouve Cameron, il a mieux fait avant. C'est un peu comme certains cinéastes où j'ai adoré certaines choses, certains films, où il maîtrisait, il menait son truc, il tenait son temps, il ne donnait pas tout d'un coup. Là, dès le début, là, je vous mets tout. Au bout de 30 secondes de film, ah, je vous ai tout mis déjà. Mais ça dure comme ça 3 heures.
Oui, mais en prenant des plans du premier.
Oui, voilà. Non, mais j'aime bien l'attente. J'aime bien qu'on vienne aux choses. J'aime bien que ça me prenne un peu son temps et que ça ménage le suspense, etc. Mais non, lui, allez, je t'envoie tout. Et puis encore et encore et encore. Et des salves de brio. Mais moi, ça m'a un peu épuisé. Un bout d'un moment, quand même, faut pas des temps morts, quand même, le gars. Voilà.
On arrive sur les dernières minutes de l'émission, donc oui. Votre numéro 1.
On a du temps pour le numéro 1, c'est cool. Oui. T'as un ex-écho, t'en as qu'un, t'en as deux.
Alors j'en ai qu'un.
Moi j'en ai qu'un aussi.
J'en ai qu'un. Je sais pas qui est-ce qui.
Alors moi, c'est peut-être mon coup de cœur de l'année, vraiment, enfin de cette partie de l'année en tout cas. Alors j'étais seul un peu à le défendre, je crois, dans mon souvenir, je me suis un peu senti seul sur ça.
Tu m'intrigues parce
pour
que
moi,
là, je vois pas
lequel tu fais. C'est le dernier film de Todd Field, c'est Tar. Lydia Tarr, sur le portrait, le film sur cette compositrice de haut talent interprétée. Mais alors là, pareil, par Kate Blanchett, mais alors à couper le souffle. Mais alors, du coup, je m'étais dit, elle aura l'Oscar. Et en fait, finalement, c'est Michelle Yeoh pour Everything, Everywhere, All At Once, et qui se mérite grandement aussi. Mais j'étais très partagé, hein. J'adorais la prestation de Michelle Yeoh, mais alors là, moi, elle m'a explosé vraiment. C'est-à-dire que ce film de Todd Field, qui est Todd Field? C'est d'abord un acteur, il a beaucoup fait de films comme acteur, des mauvais films d'ailleurs aussi, comme Twister, entre autres. Il a quand même joué dans Twister d'Alain de Bont, qui est franchement une grosse daube. Et il joue un qui est rigolo, en plus, c'est un personnage qui est un peu une comique, un faire-valoir un peu lourdeau. On a du mal à croire qu'après, des années plus tard, il fait des films, mais entre autres, fait Little Children, pour ceux qui se souviennent un petit peu. Et il est peu productif, hein. 3 films seulement en 20 ans à peu près. Et pour Tard, donc l'histoire de cette chef d'orchestre Lydia Tard, qui est en fait extrêmement désagréable. Hein. C'est un personnage pour le coup qui n'est pas du tout dans l'affect. On ne peut pas projeter de l'affection en la voyant. Elle est désagréable, elle est méchante, elle est passionnée par son art. Là aussi, c'est pour ça que je parle de passion bouffeuse dans son domaine, dans son art. Et là, elle est en fragilité parce que probablement qu'une étudiante en fait, qui travaillait dans sa sphère s'est poussée au suicide et elle en est probablement la cause. Et donc ça, elle ne l'entend pas. Elle veut absolument faire abstraction de cette suspicion qui la taraude. Et du coup, on est dans sa tête, vraiment. On est à chaque pas avec elle dans sa vie, qui est une vie très codée, très, très fermée. Elle est pleine de toc. Et donc, c'est 2h30, moi, je trouve, d'un film magistralement mis en scène. Très sobre, très difficile d'accès. Hein. Franchement, il faut vraiment le mériter. Moi qui n'y connais rien en musique, rien en musique classique, rien en direction de composition. Mais je trouve qu'on est dedans, on est dans la tête. Et ça, c'est quand même très rare à ce point d'être si bien mené, moi, je trouve. Je ne me suis jamais ennuyé une seconde sur ce film, qui est en fait une intrigue policière à un moment aussi. Mais je vois qu'un... Je sais qu'on en avait débattu et t'avais pas vu le film comme moi. Mais bon.
Non. Alors, le Cate Blanchett, je trouve effectivement qu'elle joue merveilleusement bien le rôle. Non, moi, d'une part, il y a un truc qui m'avait sorti du film dès le début, qui m'a empêché d'y rentrer, pour être plus précis, c'était la lumière.
Ouais. Un peu sombre, je suis d'accord.
Le truc était sombre de A à Z, comme s'ils n'avaient pas mis le projecteur à fond.
C'est un reproche qu'on fait souvent. Hein. En ce moment, on est défense. Doute s'il y a la lampe qui a claqué ou qui va claquer dans la salle.
C'est vrai que ces derniers temps, ça arrivait assez souvent que des films fassent cet effet-là, parce que effectivement, même si c'est en plein jour, c'est aussi sombre que quand c'est en pleine nuit. Enfin, je veux dire, il y a pour moi un manque de choix, de... Enfin, ou du moins, je sais pas comment dire, mais pour le coup, j'ai l'impression que le film est lisse, a une seule tonalité, surtout sur toute sa durée. Après, voilà, donc ça m'avait vraiment empêché de rentrer dans le film. Ouais. Ensuite, il y a des petites choses, moi, qui m'ont un peu agacé, c'est-à-dire que tu dis, elle est pleine de tics, de tocs,
De rituels,
sauf que on le voit pas mal au début avant qu'elle rentre en scène pour une interview
qui dure assez longtemps,
mais en fait après le reste du film, on a l'impression qu'ils ont un peu oublié cette particularité. Alors peut-être qu'ils se disaient, je sais pas, on l'a fait, c'est bon, maintenant on sait qu'elle est comme ça, on va pas trop s'apesantir dessus par la suite. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait plus à un oubli, une lacune, qu'autre chose. Après, comme je te dis, je ne suis pas rentré dans le film. Il m'a semblé que la mise en scène était effectivement plutôt bonne, mais j'avais un peu de mal.
C'est bien, ta vie divergent, c'est cool.
Peut-être que s'ils le ressortent, peut-être pas au cinéma, mais enfin, lors d'une sortie, une copie, où là, ils me feront mentir, enfin, en disant que c'était peut-être effectivement la salle de cinéma qui était mal réglée.
Pour la lumière, ça peut se retravailler chez soi, effectivement.
Je pourrais peut-être effectivement l'apprécier.
Ok. Alors, ton top 1
Le top 1, Les Gardiens de la Galaxie.
Ouais, comme quoi.
Les Gardiens de la Galaxie. Je dois dire que je n'irai pas jusqu'à crier au chef-d'œuvre, quoique... En fait, j'en suis pas loin. Depuis qu'on nous avait coupé le robinet des salles de cinéma, et qu'après il a été réouvert un peu timidement, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas effectivement ressenti autant d'émotions, mais surtout, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré face à un truc qui est effectivement du Marvel, donc qui est censé quand même être plutôt calibré. Et à me dire quasiment à chaque scène, Putain, il a le droit de faire ça.
C'est vrai.
Il a le droit de faire ça et il le fait bien en plus. Il a le droit de faire péter le système de l'intérieur, comme j'ai déjà dit la dernière fois qu'on en a parlé. Et j'ai trouvé ça tellement amusant déjà et d'une. Et ouais, rafraîchissant parce que voilà, enfin il y a des scènes mais complètement pétées en fait. Je reprendrai en exemple l'espèce de station spatiale faite de chair.
Oui. Bayourdi, je sais plus.
Je me souviens pas du nom.
La planète organique en fait.
Là, une espèce de planète organique enfin.
Oui. J'ai l'impression d'être toujours sur un épiderme en fait en gros plan et puis ils ont des combinaisons ringardes
voilà et je veux dire tout est fait enfin du moment où ils sont dans leur combinaison tous avec une couleur super flashy toutes différentes au ralenti en train d'aller lentement vers ce but à atteindre et que t'en as un dans le plan qui est pas du tout dans le sens des autres qui est complètement la tête à l'envers c'est très con, mais
c'est des sketchs visuels, c'est des gags visuels.
Mais ça marche, et voilà, ça n'arrête pas. Comme tu disais, Mantis, quand elle pointe du doigt son complice, bon,
ça, c'est parfait.
C'est des trucs, mais tu t'imagines plus trop les voir dans ces films-là, tellement ils se sont pris au sérieux.
T'as ça un moment pour Mantis, et j'ai jamais son nom, à son comparse costaud, là, mais qui est génial, joué par l'acteur que j'aime beaucoup aussi. Mais quand ils disent leur sentiments vers la fin, t'as la gorge serrée à mort. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils te font marrer d'un instant d'avant et tu peux presque verser vraiment ta larme dans leur rapport intime et d'affect.
Il y a des trucs énormes. La représentation de la peinture de...
Oui, de Sixtine.
Bref, le doigt de Dieu qui croise...
C'est très drôle. Il se permet des trucs.
Voilà.
Une référence très drôle. Ouais.
Donc voilà, c'est ça mon,
mais oui, et
mon
puis
top
en plus,
1, parce que voilà.
Moi, j'étais prête à arracher mon fauteuil. En fait, il y a des moments où je me dis, mais non. J'ai presque à crier, de dire non, stop, je peux plus. Enfin, émotionnellement, c'était trop intense.
Oui.
Que ce soit de souffrance, de larmes, et puis après, d'éclat de rire, mais dans la seconde suivante.
Ah oui.
C'est impressionnant comment c'est bien écrit dans les dialogues, mais dans la mise en scène. Chaque personnage trouve sa place. Il n'y a vraiment pas un personnage qui est sous-estimé. Vraiment, chacun trouve une place dans le film. Et c'est ça aussi qui est bien. Et puis, dans la suite, du coup, des Gardiens de la Galaxie, on se dit, mais il y a aussi un renouveau, une envie de renouveau. Et moi, j'ai envie de savoir les choix qui vont être faits pour la suite.
Ça fait un peu peur quand même. Je ne sais pas s'ils vont marcher dans les traces ou ils vont se contenter de rebooter.
Je sens que ça va.
J'ai une petite appréhension, moi. Mais par contre, voilà, vous évoquiez un peu les rapports là, entre les personnages. Mais justement, il y a des trucs qui auraient été plutôt classiques. Elle a oublié qu'ils étaient tous les deux ensemble, qu'ils s'aimaient, etc. Et à la fin, je pense qu'on peut spoiler un peu. Ça fait quelques mois qu'il est sorti quand même. Ouais. Il tombe pas dans la facilité, quoi. Aussi, c'est assez inattendu. Du moins, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc qui osait peu ça, ce genre de choses.
D'accord.
Voilà.
Super, ce top 5. Bravo. Oui. C'était un bon premier semestre, effectivement.
Finalement, il y avait pas mal de choses, en fait. Il y avait des variétés, il y avait des films qui nous ont bien plu. C'est cool.
On vous retrouve dans 2 semaines.
Alors, on aurait bien aimé. Moi, j'attendais l'avant-première d'Indiana Jones pour faire une spéciale Indiana Jones, qu'on en avait un peu évoqué. Alors, apparemment, il n'y aura pas de possibilité de le voir le mardi d'avant l'émission, parce que la prochaine émission, ce serait le 28, théoriquement, juin. Et il sort le 28 juin, justement, mais moi, je ne pourrais pas le voir le jour J. Donc, est-ce qu'on se risquera à faire une émission quand même pour rembobiner les 4 précédents et faire vraiment une émission spéciale, et puis les gens pourront raccorder avec le dernier qui sort. Mais on ne l'aura pas vu, donc à réfléchir, peut-être.
Bon,
on va réfléchir, on a 15 jours pour réfléchir.
Peut-être dans 15 jours.
Voilà.
Mais la semaine prochaine, il y a quand même l'émission de cinéma avec l'autre équipe, celle de mon équipe originelle.
On les salue grandement.
Et puis, restez sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, parce que la suite, c'est Chip Meadow.
Merci Céline, en tout cas.
Avec plaisir. Eh bien, on vous souhaite...